collé sur ce qui se passe ici et ailleurs.
Il n'y a personne qui croit à ça au coup. Là. Tous les autres partis ont dit oui. On le voit, le format avantageait pas M. Carney.
T'as le déficit record, mais t'as le déficit record du déficit record. Parce que t'es sur le podium, puis t'as Éric Gérard, puis t'as encore Éric Gérard. Là.
C'est comme un vrai winner. Les enjeux qui te concernent.
Michel Hamel va faire ses annonces très bientôt. Là, et ben, nous, on entend dimanche le 6.
Donc, ça fait donc bien désiré, M. Hamel.
La nouveauté de Green Day. Le fou rire qui fait ta journée.
Oh, franchement, gang, là. C'est vous.
Boulevard 102. Pour du monde de Québec, par du monde de Québec. Une propriété Leclerc Communication.
Mike Sherona. Mike Sherona. Eh boy, verre d'oreille au même titre que celui de Barbie's Resto Bar Grill. Voilà, je vous inclus des verres d'oreille dans vos oreilles pour les prochaines minutes. Je pourrais faire des plaintes sur mon Messenger dans les prochaines secondes, mais j'ai été pogné avec ce verre d'oreille-là, cette nouvelle publicité-là qui roule à la radio et à la télé. Mike Sherona. C'est très bon, très, très bon. J'ai été pogné avec ça. J'essaie de m'en débarrasser. Puis il y a Barbie's Resto Bar Grill aussi qui revient une fois de temps en temps. Hey, bienvenue dans mon podcast du soir. Mon nom, c'est Marceau. Je t'accompagne pour les 60 prochaines minutes avant de te présenter mon invité de ce soir. Juste te dire que pour ce de la météo. Ça va être tranquille. Quelques nuages ce soir, des rafales à 60 km/h. Donc, ça va brasser un peu. On parle pas d'averse maintenant. Là. Environnement Canada qui s'est ravisé. Minimum de plus 2 pour ce soir. Demain, une belle journée ensoleillée avec un maximum de 11. Peut-être un peu de nuages au travers. Samedi, dimanche, pour l'instant, ce serait de la pluie samedi avec un maximum de 6 et de la pluie intermittente pour ce qui est de dimanche avec un maximum de 9 degrés. Donc, voilà pour ce qui est de la météo. Mon invité de ce soir, c'est Maître Frédéric Bérard, un docteur en endroit qui s'est promené un peu partout à travers le monde. C'est un auteur aussi et un chroniqueur. On l'a reçu quelques fois sur les ondes de Boulevard 102.1 et chaque fois, les auditeurs trippent vraiment à entendre ce gars-là. Un gars hyper brillant qui a de grandes connaissances. Et on va parler un peu de ce qui se passe aux États-Unis. On va parler, bien sûr, d'une de ses missions pour un livre qu'il a écrit pour Omar Kader. Il avait été à Guantanamo. Faufiler au travers de la CIA là, pour réussir à aller à Guantanamo puis réaliser son livre, prendre des photos et tout ça. Une histoire abracadabrante, mais qui s'est réellement passée. Donc, Frédéric Bérard sera avec nous pour les prochaines minutes. Donc, voilà. Pour ce qui est du podcast de Marceau Soir, ben, si je pèse sur le piton à l'instant, ça devrait partir. C'est parti!
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Quel plaisir ce soir de rencontrer Frédéric Bérard, Maître Frédéric Bérard. Je ne sais plus comment le présenter parce qu'il y a plusieurs chapeaux. C'est un avocat, c'est un enseignant, c'est un auteur, c'est un chroniqueur. Je ne sais pas s'il dort. Salut Frédéric Bérard, comment ça va?
Salut! Écoute, Fred, c'est bien correct, c'est bien en masse. Ça me fait vraiment plaisir de te parler.
Avec du recul, là, tu fais-tu vraiment tout ce que tu voulais faire dans ta vie, là, avec tous les chapeaux que tu as? Il t'en reste-tu? Mettons, y a-tu un poste d'astronaute que tu penses faire les prochaines années?
Aïe, aïe, aïe. Écoute, c'est drôle que tu dises ça parce que j'ai jamais eu de plan de carrière. Il y a des gens qui me disent, mais tu niaises. Mais non, j'ai jamais eu aucune idée de ce que je voulais faire dans la vie. Pour être honnête, depuis que je suis ticu, là.
Ah ouais.
Non, je te jure, je blague pas. Aucune idée. J'ai jamais eu de plan de match. J'en ai pas encore aujourd'hui. Si tu me demandes ce que je vais faire dans 3 ans, je ne sais pas. Ce qu'on va faire dans 6 mois, je ne sais pas. Puis je dis ça de manière très, très honnête. Là, c'est pas. C'est rien d'autre que de l'improvisation, mais j'essaie de faire ce qui me tente. C'est ça, c'est un peu ma règle de base, là, on s'entend. Puis le fait que je fais une coupe d'affaires, ben, c'est parce qu'il y a une coupe d'affaires qui me tente. Puis faire toujours la même affaire. Des fois, je m'ennuie un peu vite. Mais sinon, écoute, je flotte. Au gré du vent depuis ma tendre ou pas très tendre enfance, va donc savoir.
Oui, mais le droit, c'est arrivé comment dans ta vie? Parce que, bon, t'es avocat, t'es allé chercher un doctorat aussi en droit constitutionnel. Je veux dire, tu trébuches pas là-dessus dans la vie, là. Hein? Là tout d'un coup, j'ai un doctorat en droit constitutionnel.
Non, mais okay, faire une histoire courte, tu t'as démontré que je savais pas trop quoi faire. J'avais appliqué à l'université. Moi, j'ai fait mon cégep à Mont-Laurier. Moi, je suis originaire de là. J'ai vécu là-bas mes 19 premières années, mettons. Puis, j'aimais beaucoup les sciences sociales, mais je ne sais pas trop ce que je voulais faire. Fait que j'avais appliqué en Sciences Po, en philo, en littérature française. Et subsidiairement, j'avais appliqué en droit. Mais je ne savais pas si je voulais faire. J'aurais même eu, je pense, plus faire de la philo puis de la littérature, mais en tout cas, je m'en foutais un peu. Puis après ça, ben, mes parents ne pouvaient pas m'aider tant que ça. Puis, tu sais, à l'époque, le bon vieux réflexe, puis moi, j'étais un gars de région, là, il faut que j'aille à Montréal, ça va me coûter un bras. Fait, si ça se trouve, je vais être capable de faire un bac, je ne pourrais pas en faire 12. Fait que je vais aller faire le bac en droit, comme ça, techniquement, si tout va bien, je devrais avoir une job après, ce qui n'est pas nécessairement évident si tu vas en philo ou en littérature, par exemple. Fait que j'ai fait le bac, j'ai pas aimé ça plus qu'il faut, pour dire que j'haïs ça en partie. J'ai fait une maîtrise en sciences politiques après, parce que je savais pas quoi faire. Ça, je me suis dit, bon, faudrait peut-être que je fasse mon barreau tant qu'avoir fait le bac. Je m'étais trouvé un stage dans l'intervalle. Je fais le stage, je pratique un peu, j'haïs ça pour mourir, je crisse tout ça là, je vagabonde, puis éventuellement, je commence à enseigner. En fait, au même moment, je commence à enseigner en droit à l'Université de Montréal. Ça, j'aimais ça. Je le fais encore d'ailleurs 24 années plus tard. Puis à un moment donné, je dis, ah ben, t'es rendu là, je vais faire mon doctorat. Je suis allé faire un doctorat. Et puis après le doctorat, là, j'ai voulu faire de la philo, enfin. Fait que j'étais allé faire mon postdoc en philo à l'Université Laval. C'est un postdoc, c'est pas grand-chose. C'est plus tu cherches un sujet ou deux, là, puis je peux pas dire que je me suis cassé en deux. Mais tout ça pour dire que, voilà, fait que ça, c'est, les diplômes, c'est ça. C'est un concours de circonstances plus qu'autre chose.
Mais tu les as quand même accumulés, puis tu es allé chercher des trucs qui te servent aujourd'hui en tant que chroniqueur, en tant qu'auteur. Là. Je regardais tous les livres que tu as écrits. Je me suis dit... Bon, je sais pas s'il est célibataire, mais s'il y a une blonde, ça doit être la grande solitude. Là.
Mais, écoute, moi, écrire, c'est drôle, mais il n'y a pas grand-chose que j'aime plus faire dans la vie que ça.
Ah ouais?
Sérieusement, mais là, ce qui est difficile, c'est que pour écrire, puis tu sais, moi, je peux pas écrire dans l'autobus, je peux pas écrire quand il y a du monde autour. Il faut que je sois là, tu sais, tout seul au chalet dans le fin fond des bois. Fait que là, c'est un petit peu plus compliqué, mais non, écrire, ça a été un beau trip dans ma vie. Là. Je vais en avoir d'autres éventuellement là, quand ça va se calmer un petit peu.
Mais là, t'en as combien à ton actif? T'en as-tu 5-10, entre 5 et 10 à peu près?
Des livres tout seul, comme un grand, j'en ai, je pense, 9 ou 10. Puis en duo ou des directions de collection, je dois en avoir, je ne sais pas, là, 15-18 peut-être. Mais les trucs en gang, c'est... Tu fais ta petite portion, puis c'est tout. Mais des livres solo, c'est ça. Je pense que j'arrive à 9 ou à 10.
OK. Puis est-ce que tu risques tout le temps de ta vie? Parce que selon ce que j'ai pu lire, tu t'es infiltré sur la base militaire de Guantanamo. C'est-tu normal, ça, pour un auteur?
Tu as fait tes recherches, t'es bon. Écoute, ça, Guantanamo, ça a été le trip ultime de ma vie professionnelle, mais... Pour te dire en toute candeur, parce que je te considère comme quelqu'un que moi je te dirais, t'es pas un intime, on s'est même jamais vu, mais j'aime beaucoup ce que tu fais, puis je respecte ce que tu fais. Je l'ai eu dans les dents en tard, parce que quand je suis revenu de Guantanamo, c'était pour faire mon livre sur Omar Kader,
ouais.
J'appelle J'accuse des tortionnaires d'Omar Kader. J'ai travaillé 7 ans là-dessus. C'est pas temps plein, évidemment, là, parce qu'il y avait de la torture, puis je trouvais ça vraiment difficile. T'sais, ironiquement, c'est pour ça que je l'ai fini, parce que je me dis, faut que ça sache. Mais j'ai jamais passé autant de temps sur un livre, puis je referai plus jamais une affaire de même. Là. C'était ben trop éprouvant, c'était compliqué. Écoute, juste Kader lui-même, là, il y avait 260 quelques requêtes en droit militaire américain à Guantanamo. Juste Kader. Sans compter ce qui se faisait en droit canadien, sans compter ce qui se faisait en droit américain, droit commun. Fait que c'était une job qui était épouvantable. Tout ça pour dire que quand j'étais allé à Guantanamo, je suis revenu de là. Il me restait... J'ai fait mon intro puis ma conclusion là-bas. Sur la base de Guantanamo. Puis, je suis revenu, puis là, avec l'éditrice, on avait quelques jours, tu sais, tu révises les textes, puis, là, puis là, tu zigonnes sur des gugus. Mais la dernière journée, je me rappelle, c'était un jeudi, j'ai remis mon manuscrit. Et puis là, mon vieux, là, je te cacherai pas, là, les lumières se sont fermées. Ça, c'était fin juin 2022. J'en ai eu pour 2-3 mois, là. Je voyais plus rien, là. J'ai passé l'été à me bercer. J'étais pas beau à voir, là. C'était pas le fun.
Ah ouais? Il y a quelque chose qui a changé en toi ou c'était la grosse fatigue?
Les deux, probablement. J'étais content d'avoir remis le manuscrit. On dirait que j'ai tout donné pour que ce manuscrit-là puisse être finalisé. Puis une fois que ça a été fait, là, écoute, je te jure, la plug s'est tirée. J'ai passé un été à me bercer. J'avais de la misère à lire un Tintin. J'étais brûlé. Brûlé, comme je ne l'ai jamais été. Puis après, j'ai été incapable de reprendre l'avion pendant presque un an de temps. déjà arrivé là, que j'arrive à l'aéroport, puis je reviens de bord. Et puis alors que j'ai visité une soixantaine de pays, j'adore voyager, là, j'adore ça. Là, j'étais traumatisé raide. Puis j'ai été, je suis même pas gêné de le dire, j'ai consulté, là, parce qu'à un moment donné, il faut le faire. Mm-hmm. Puis la psychiatre en question a dit, c'est un choc post-traumatique, probablement la crainte de ce que j'ai vu de Guantanamo, puis la crainte de rester pogné là, probablement, parce que là, à la fin, ils m'ont menacé au début, ils m'ont laissé rentrer. Ça a été long, ça a pris 3-4 mois avant que je puisse rentrer, puis je les ai bullshités, évidemment, là, tu débarques pas là comme n'importe quoi. Puis une fois qu'ils ont compris que j'étais là pour les fourrer, ça a quand même leur a pris 3-4 jours, mais quand ils ont allumé ça, là, c'était moins drôle un peu. Là. Puis là, ils me disaient, finalement, malheureusement, ton avion ne peut pas venir te rechercher samedi, il va peut-être falloir que tu restes encore un peu avec nous autres, mais j'ai un peu, c'est combien de temps ça? C'est pas là, peut-être une couple de semaines, max une couple de mois. Tu vois, genre, là, c'est parce que t'as bien beau faire ton fanfaron, mais tes poignets sur... Tu sais, Guantanamo, là, c'est gros comme Verdun, là. C'est minuscule. Ouais. C'est sur l'île de Cuba, évidemment. Mais tu peux pas sortir de là.
Non, t'es le seul qui a pas de gun.
Et si tu restes là, tu vas rester là. Okay. Puis, fait que...
Mais comment t'as fait pour t'infiltrer à la base de Guantanamo?
Honnêtement, moi, j'ai beaucoup moins de respect pour la CIA que j'en avais. Je les ai trouvés un peu tweet, là. Tu sais, c'était pas bien dur de savoir que j'allais là pour les fourrer, là. T'as juste à faire... Bérard sur Google, tu sais, Guantanamo, Kader, Terror, n'importe quoi, tu vois bien ce que je suis en train de faire.
Ouais.
Bref, ils l'ont pas fait. Fait que ce que je leur ai dit, puis c'est drôle parce que j'avais fait un défi avec mes chums, je m'en vais finir mon livre à Guantanamo. Puis là, ils ont dit, non, ça arrête de niaiser, tu peux pas rentrer à Guantanamo. Dont un de mes chums qui est pas mal plugué politiquement là, dans les hautes sphères, puis il disait, ça va pas arriver. Je dis, appelle donc à Washington si t'es capable. Il dit, non, tu perds mon temps de faire. Tu niaises, mais il dit, je vais rédiger une lettre pour toi, mais on perd notre temps. Puis bref, ça ne marchait pas. Fait que là, j'ai essayé une patente, je leur ai dit, je faisais des recherches scientifiques, comparer les commissions militaires avec les tribunaux de droit commun, pour dire en gros que finalement, Guantanamo, c'est pas si pire que ça, puis le monde capote pour rien, puis blablabla. Bla, bla. Puis là, ils ont dit, c'est une idée intéressante, mais on n'ouvre pas nos archives pour des trucs du genre, mais... Bon, si vous aviez une carte de journaliste, on aurait peut-être pu considérer l'affaire. Tout ça. Bon, mais ça donne bien, j'en ai une, je suis journaliste. Il dit, là, tu vois, il est un peu déçu. Puis il dit, envoyez-nous ça. C'est parfait, là, je regarde ma carte, c'est expiré depuis un an et demi que j'appelle la Fédération. Puis là, je dis, écoute, je ne sais pas comment t'expliquer ça, là, mais j'ai un gros pour rentrer à Guantanamo. Puis là, ils disent, voyons donc, je te le dis, là, mais là, il faudrait vraiment que tu me réimprimes ma carte. Tu dois, et là, ça va être 80 $. Et là, je m'en crie, ça coûtera ce que ça coûtera. Mais j'ai besoin de ça pour demain. Ils disent, là, on n'a pas beaucoup de monde qui travaille. J'écoute, s'il te plaît, démerde-moi. Fait qu'il me fait, il était super fin. Je ramasse la carte, je prends des screenshots, j'envoie ça. Écoute, ils m'ont passé en entrevue, je sais pas, là, 2, 3, 4 fois peut-être. Ils ont enquêté la GRC, la CIA qui a appelé la GRC, rempli tel formulaire, puis pati, puis pata. Fait que ça, après tout ça, j'ai réalisé, finalement, mon dossier est quand même pas si pire, là, je dois pas être soupçonné de grand-chose. Mais je m'attendais jamais à ce qu'ils me disent oui, puis tout le monde me disait, ça va pas arriver. Mais il y avait, je dis ça, puis en même temps, il y avait une petite lumière qui me disait, si je vais y fourrer, je vais rentrer, je sais pas pourquoi je le sentais. Puis à un moment donné, il dit, OK, ça marche, tu pars le 22 de la base Saint-Andrew, c'est la base d'aviation du président américain, c'est là qu'il prend son avion. Il dit, sois là à 5 heures le matin. Puis là, jusqu'à la dernière seconde, écoute, je pensais qu'ils vont changer d'idée, ça n'a pas de maudit bon sens, c'est une joke cette affaire-là. Fait qu'à 5 heures moins quart, je suis là, tu comprends que je voulais pas arriver en retard. Puis le gars qui s'appelle Ron Flesving, c'est un haut gradé de l'armée américaine, je ne sais plus son statut de capitaine, je sais pas quoi, ou colonel, peu importe. Puis là, on rentre sur la base. Puis là, mon gars, là, je te jure, là, tu dis... En fait, là, pas sur Guantanamo, je te parle juste de Saint-Andrew, puis c'est spécial. Là, tu passes les douanes pour entrer à Saint-Andrew. Même lui doit passer les douanes. Là, je dis, c'est pas un haut gradé. Il dit, tu comprends pas là, où on s'en va, hein? Je dis, j'ai une petite idée, là, mais... Il dit, écoute-moi bien, là. Moi, je suis allé sur des porte-avions. Tu sais, il n'y a pas grand-chose qui est plus compliqué que d'entrer sur un porte-avions, là, côté code de sécurité. Je suis allé sur un porte-avions en Corée, au Moyen-Orient, dans la guerre du Golfe, machin. Puis il n'y a pas aucune place qui est plus compliquée à rentrer que Guantanamo. Fait que là, c'est bien possible qu'il annule notre vol dans la prochaine demi-heure. Là, je dis, je suis venu de Montréal. Puis il m'a regardé en
jeu. Je suis venu de Montréal.
Qu'est-ce que ça nous crie, ça? Écoute, ça passe, rentre dans l'avion. Puis quand je suis débarqué à Guantanamo, c'est dans un petit aéroport. Tu sais, pense à des films là, que tu as vus là, dans le genre. Là. C'est ça, là. Dans un pit de sable. J'ai un aéroport, tu sais, c'est gros comme... C'est rien, là. Puis là, tu débarques là, tu te dis... Puis là, t'as Cuba qui est... C'est sur Cuba, évidemment, là, c'est un bail amphithéâtique, mais tu peux pas te promener comme tu veux, tu peux pas passer là, non, ça, c'est le bout de Cuba. Fait que là, ils viennent te chercher avec un bateau. C'est une histoire de film, cette affaire-là, de A jusqu'à Z. Puis ils te checkent, tu sais, tu vois le Fred en haut de la colline, là? Tu vois l'espèce de gros truc en métal, tu vois, bah ça, c'est notre caméra, puis c'est 24-7 sur toi. Fait que, don't fuck it up. Fais rien. T'as pas le droit de prendre de photos, pas de droit de ci, pas de droit de ça, évidemment. Le gars, il me suivait, là, partout, tout le temps, un chaperon. Fred, où tu vas aller super asseoir, je vais aller, il dit, OK, je te rejoins. Non, je suis correct, je vais marcher, run. Non, je te le dis, je vais y aller avec toi. Je dis, non, il n'y a pas de problème, run, je vais marcher. Une demi-heure après, je sens une vame derrière moi, je me reviens de bord, comme de fait. Il me suivait, tu sais, comme dans Rocky, il y a Cap en Union soviétique, là. C'est ça, il laisse personne aller. Puis c'est ça. Puis un bon matin, ça va peut-être te faire rire. Moi, je suis quelqu'un qui se perd à Mont-Laurier, là. J'ai pas de sens d'orientation, tout le temps tout mêlé. Puis je sors de l'espèce de petit bunker. Et je disais, ils sont où les toilettes déjà, Ron? Il dit là, OK, parfait. Tu dis avec toi, je dis non, je vais aller tout seul, c'est correct. Puis je me perds. Pour vrai, tu sais, c'était des petits cabanons. Je me suis trompé de bonne foi. Et à 8h le matin, il joue l'hymne américain. Et là, je voyais le premier palais de justice où Kader a eu des diverses audiences pour des requêtes et autres. Puis tu n'as pas le droit de prendre ça en photo. Puis là, je fais, OK, ça, c'est pas ça, c'est quelque chose, par exemple. Fait que je pars la caméra, puis je filme. Puis évidemment que j'avais pris des photos pendant tout le voyage. Puis j'envoyais ça à mes chums à Montréal sur Messenger, puis j'ai effacé après parce qu'ils ont pris mon téléphone 4 fois, t'sais. Puis là, je filme ça, puis là, je dis, OK, ça, c'est une pop-in shot avec l'hymne national, puis tout le kit, puis le palais de justice à la colline. Il n'y a personne qui a des photos de ça parce que, justement, ils checkent à temps plein. Puis je me promène en parlant à mon téléphone, puis j'arrive sur le recoin d'un building. Écoute, il y a 2 kids qui sortent. Ils savaient, ils m'ont vu par le miroir, je ne sais pas quoi, là. Il y a 2 kids qui sortent avec des AK-47, j'imagine, là, d'où M16, je ne sais pas trop. Puis ils me pointent ça dans le front, les deux. Et tabarnak, je te jure, j'ai pas eu peur comme ça dans ma vie, ben des fois. Puis là, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, je leur patente quelque chose que, tu sais, j'essaie de pas trop parler anglais, j'ai l'air d'être tout mêlé. Je dis, non, speaking on the phone, with family, you have not right to be here, get the fuck out, blablabla. Puis là, ils sont venus me chercher dans le palais de justice après pour m'expulser de Guantanamo. Flesving est obligé de s'en mêler. Je dis, Ron, je parlais au téléphone. Puis en tout cas, bref, c'est toutes des histoires de même pendant un bout de temps. Ça a été très, très cool. Je dois dire, quand j'étais là, j'ai vraiment eu du fun. Beaucoup de fun. Puis j'étais pas stressé, là, curieusement peut-être. Mais c'est quand je suis revenu, là, ça, le livre, puis toute la plug s'est tirée, là, puis j'en ai eu pour quelques mois à plus rien faire. Bon.
Okay. Mais quand tu dis ils se sont rendus compte que j'étais là pour les fourrer, là, c'est quoi qui leur a donné l'image comme quoi Fred Bérard, c'était pas l'individu qu'on croyait qu'il était?
Ben, j'ai fait exprès parce que, tu sais, j'aime ça un peu tester la machine. Puis là, je savais qu'une fois rendu là, j'ai dit, tu sais,
ça fait des bons livres si t'es capable d'écrire la finale, là.
Oui, ça, idéalement, oui, mais... dans l'intervalle, il y avait des photos sur Messenger, des vidéos. J'ai dit, ben, mes chums vont avoir un souvenir, quelque chose, tu sais. Ouais. Moi, quand j'étais là-bas, j'ai continué à faire mes... Tu sais, je fais des chroniques radio pour une couple d'employeurs. Plus, tu sais, là, Arcan le matin, Masbourian, puis là, c'est quelqu'un derrière du Québec à Guantanamo, blablabla. Fait que là, bon, il me passait en entrevue, puis moi, racontait ce que je voyais, puis je me censurais pas, évidemment, ou très peu. Puis à un moment donné, il s'appelait Andrew quelque chose, c'était le sous-deputy, en tout cas le sous-fif de Duran en question. Puis il vient me voir et il dit, hey, « I just heard you on CBC this morning. » Je disais, « Je savais pas que tu parlais français. » I don't speak French with the CIA. You don't need to speak French. We have translators. J'ai fait, oh boy. Une demi-heure après, il m'envoie un texto. Il dit, « Je vais avoir tous les articles que tu as publié sur Guantanamo, toutes les entrevues que tu as données sur Guantanamo. » Puis là, j'ai dit, « Well, it's all on the web, Google Fred Bérard. » C'est doute. Là, je te dirais que là, ça commençait à chauffer tranquillement, pas vite. Puis cette journée-là ou le lendemain, je me souviens plus, qu'ils m'ont dit, ben, finalement, malheureusement, ton avion ne pourra pas être là samedi. Et quand j'ai dit à Flesvig, mais là, ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Flesvig, il me dit, Fred, il dit, rappelle-toi ce que je t'ai dit à Saint-Andrew. Militaire rime avec arbitraire. So this is it. Puis essaye-le en anglais, militarian rhymes with arbitrarian. Puis c'était ça. Fait que là, on est dans l'arbitraire total. Puis c'est le même. Puis là, on a décidé que tu partais pas samedi. Puis on verra quand est-ce que tu pars. Là, je te dirais que j'ai comme, ouais, je suis pas sûr de passer mon été. Puis c'était pendant la COVID. C'était en 2022. Et l'hôpital là-bas, donc sur la base de Guantanamo, était bourré de militaires qui avaient pogné la COVID, essentiellement. Puis il y en a même qui sont morts. Il y a même eu un reportage dans le New York Times, si je ne me trompe pas là-dessus, comme quoi que Guantanamo cachait de l'information, puis il y avait un paquet de gens super malades sur le truc. Puis dans ma chambre, j'avais de l'eau qui me coulait quasiment sur la tête. Il y avait un tuyau qui avait sauté ou je sais pas quoi. Puis moi, je suis pas pire asthmatique, tu sais. Fait que là, avec toute cette cochonnerie-là, les champignons, il y a une nuit là où j'ai vraiment de la misère. Je suis étouffé, fait que je m'en vais me coucher dehors, tu sais. Là, les gars me voient. Puis ils disaient, là, on t'envoie à l'hôpital. Je dis, aïe, 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 je m'en vais pas m'accoter, moi, là avec la gang de COVIDiens, machin. Puis en plus, s'ils me rentrent à l'hôpital, moi, je ressors quand, d'après toi, là, tu sais, ils vont me mettre en quarantaine. Mais, écoute, fait que là, j'étais comme couché en boule en dessous d'une espèce de sofa pour pas me faire spotter. En tout cas, ça a été, je te dirais que ça a été bien, belle fun. C'est juste en revenant, j'étais un peu fatigué.
Oui, puis, mais tu sais, je regarde où est-ce que tu étais exactement. Il n'y avait pas grand place pour te sauver parce que t'es pas au nord de Cuba, tu étais vraiment au sud, ce qui fait en sorte qu'un peu plus bas, c'est Haïti. Puis si tu vas vers l'ouest, c'est la Jamaïque. Il y a une couple de jours de nage, là, de ce que je comprends. Ça aurait été plus facile pour toi d'être à la Havane, là, dans. Avant Cancun, ça doit se faire bien en nage quand même.
Écoute, t'es pas obligé de me croire, mais un soir, fin d'après-midi. Je disais, hey, là, moi, je suis à Cuba, là. Là, j'en ai plein mon casque de toutes ces fafouineries-là. Là, je m'en vais me baigner. Fait que je me suis trouvé un spot dans un raccoin avec des roches. Puis je me baignais. Écoute, là, tu sais, t'es à Cuba, là. C'est comme c'est fantastique. C'était fait beau. C'est superbe. Puis là, je m'assoyais le cul dans l'eau avec les vagues. Puis je te disais, je suis vraiment en train de m'effoirer à Guantanamo à prendre du soleil. Comme une grosse dune.
T'as-tu rencontré Omar Kader?
Kader lui-même, non. Puis je vais te dire pourquoi. C'est parce que je savais que tout le monde allait me poser la question. Puis je voulais justement pas être capable de dire. Je voulais même pas être obligé de dire oui, je l'ai rencontré, on est devenu chummy ou tout ça. Mais j'ai rencontré son avocat, Edney, à deux reprises, Denis. Qui est mort d'ailleurs là, un an et demi peut-être. Puis quand je l'ai vu, on avait échangé un courriel avec Omar une fois ou deux, mais je voulais pas plus que ça. Je voulais vraiment être capable de dire, gars, je le connais pas, mon cadavre, j'ai pas de lien avec lui et tout. Puis son avocat, c'était plus sur des technicalités.
Ouais. Mais tu voulais conserver une certaine neutralité?
Oui, ouais. Parce que c'était clair que j'allais backer. Puis c'est pas Kader que je défends, moi, c'est les principes dans cette affaire-là. C'est vraiment pas la même chose. Puis le père de Kader, c'est un des tortionnaires que j'accuse dans le livre. C'est un esti de malade, ce gars-là. Là. Tu sais, je veux dire, il dit à ses enfants, quand vous allez vous faire sauter pour l'islam, les gars, pas si, quand, vous aurez le droit à la récompense de votre choix. Moi, quand je vais me faire exploser, ben, ça va être une chute avec un éléphant blanc. Si tu veux faire qu'un éléphant blanc, va donc savoir. En tout cas, peu importe. Un autre des frères de Kader dit, moi, papa, je veux un stationnement rempli de voitures de luxe. Puis le petit Omar, il dit, ben moi, papa, j'aimerais ça avoir une piscine remplie de jello. C'est son dessert préféré il y a 4 ans. Tu sais, quand tu as 4 ans et ton père te dit que tu vas te faire sauter pour l'islam, ben ça se pourrait que ça finisse mal ton affaire. T'sais? Puis c'est pour ça qu'il existe des conventions sur les enfants soldats pour éviter que les enfants soient instrumentalisés par, par des adultes à des fins du genre. Alors, bref, non, je ne l'ai pas rencontré, mais j'avais rencontré Edney qui était éteint. Il était gris-vert, puis il ne parlait pas fort. Puis il m'avait dit, quand j'ai dit que je voulais aller à Guantanamo, il dit rentre pas là. Il dit, faut pas que tu ailles à Guantanamo. Il dit, si tu rentres à Guantanamo, tu vas sortir de là, tu seras plus jamais le même gars. Parce que lui, il était allé comme avocat de Kader, évidemment. Il dit, ça lui a brûlé sa vie. Honnêtement, il dit, c'est l'horreur sur Terre. Tu sors de là, puis tu crois plus en rien, essentiellement.
Puis visiblement, il avait raison, parce que t'es revenu un peu changé, là.
Ouais. Honnêtement, surtout, là, ça va faire 3 ans au mois de juin. Ouais. Puis ça, là, ça va mieux, là, je te dirais, depuis 6-8 mois. Mais ça a été bien tough. Honnêtement, bien tough.
Ouais. Est-ce que ça t'arrive souvent de voyager comme ça, d'aller dans des endroits qui sont pas nécessairement très hospitaliers, puis qui, des fois, c'est des moyens limités du bord? Puis quand tu reviens ici, tu sais, moi, ça me fait souvent ça. Là. Quand je voyage, des fois, je prends pas de douche pendant 2-3 jours. Je marche, puis là, je me dis, quand je suis là-bas, sans je prendrais une bonne douche chaude, ça ferait du
bonne
bien.
Bière.
Avoir mon petit appartement, ma bière et tout ça. Quand je reviens, on dirait que j'apprécie peut-être un peu plus.
Ben oui.
Le monde de fou dans lequel on est ici en Amérique du Nord, c'est, alors qu'on ne s'en rend pas compte. Quand on est trop dedans, on a l'impression qu'on est les pires de la planète, mais quand tu sors à l'extérieur, tu te rends compte que, tabarouette, on n'est pas si mal que ça. Là.
Ah non, écoute, on est gâtés pourris. Pour répondre à ta question, moi, je fais des reportages à l'étranger sur les droits humains. Là. Ça va sortir prochainement, une couple de trucs qui étaient déjà sortis au métro. Je travaillais à l'époque, j'en ai fait d'autres. Comme toi, cet été, je suis allé au Rwanda pour le 30e du génocide. Tu sais, voir des crânes d'enfants pulvérisés à coups de machette, là, c'est comme ça fesse pas pire. Je suis allé en Éthiopie où il y avait eu la grosse famine. Puis il y a un génocide aussi en 2022. Les médias occidentaux n'ont pas vraiment parlé, mais ça avait brassé. Je suis allé voir, ça c'était pas dangereux, là, mais je suis allé en Afrique du Sud voir les cellules de Nelson Mandela sur Ruben Island. Je suis allé en Israël, je suis allé en Haïti.
Sa cellule, je ne sais pas si toi, tu as pu y entrer. Là,
oui,
tu as pu y entrer. Okay.
C'est gros comme ta table de cuisine, puis encore.
27 ans de prison à attendre.
Yeah. Hein,
27 fou, hein? ans de prison pour avoir été déclaré coupable d'un crime où aujourd'hui, jamais personne serait déclaré coupable de ce crime.
Il a fini en héros, ce gars-là.
Ouais.
Il a passé, puis c'est drôle parce que j'ai parlé là-bas avec des co-prisonniers de Mandela. Puis il me racontait comment il était, en fait, essentiellement.
Ouais.
C'était quelque chose. Puis dans les autres voyages, Haïti, ça c'était plus rock'n'roll un petit peu. Puis les voyages qui m'ont vraiment, vraiment marqué, je te dirais, à ce niveau-là, c'était le Brésil puis Chili en 2019. J'étais allé back à back. Le Brésil, j'étais rentré d'une favela à Rio, qui était considérée comme la favela la plus dangereuse à... Je ne me souviens plus du nom exactement, mais pas longtemps après, il y a un couple de Suédois qui était rentré par accident. Tu sais, c'est pas écrit « Bienvenue dans la favela ». Puis il y avait loin un char, puis ils ont mitraillé le char essentiellement. La femme est morte, le gars est sorti. On est des touristes, ils ont tiré le gars aussi. Puis un journaliste qui était rentré comme moi, puis ils ont fait promettre « Prends pas de photos », puis il n'a pas été capable de s'empêcher. Ils l'ont monté sur le top de la butte, puis ils ont coupé les mains, les pieds. Puis l'ont mis en feu essentiellement.
Ils ont fait un exemple.
Ouais, exact. Puis tu vois, j'étais rentré parce que j'avais pogné un fixeur là-bas. Tu étais chanceux, c'est un concours de circonstances. Puis mais l'affaire, c'est qu'il n'y a pas de taxi qui va le rentrer là. Fait que j'ai été obligé de me prendre un chauffeur privé, une affaire de fou. En tout cas, bref. Puis le gars, il y a une petite Acura noire, une Acura de luxe, là, comme toutes les Acura, je te dirais. Puis, juste avant de rentrer dans la favela, parce que le deal, c'était moi, je rentre dans la favela au poste de pompier, la première affaire qu'on voit, puis je te débarque là, puis tu t'arranges avec tes affaires. Moi, j'avance pas plus, c'est trop dangereux. Et juste avant de rentrer dans la favela, il dit, monte, on va monter nos vitres. J'ai pas de problème, c'est des vitres, tu dis ça, fumées, essentiellement. Et là, on débarque, il me laisse au poste de pompier. Mon fixeur débarque dans sa petite bagnole, tout pété en morceaux. Puis là, il se met à l'engueuler en portugais. Fait qu'évidemment, je comprends rien. Mais je comprends après parce qu'il me l'explique. Il est vraiment fâché parce que c'était au moment où Bolsonaro était le président du Brésil, si tu te rappelles. Puis il avait donné l'ordre à sa police militaire, les BOPA, B-O-P-A. C'est pas des vrais policiers, c'est plus des policiers militaires ou des militaires policiers, peu importe, de faire feu sur tout ce qui bouge dans les favelas pour nettoyer les favelas. Et une semaine avant, il en avait tué 5 ou 6. Fait que c'est les gars du BOP rentrent. Puis là, il dit, si tu avais vu dans la Cura les vitres fumées monter, clairement, tu es un gang de rue. Fait qu'il tire. Puis le fixeur dit, puis si ça avait été ma gang qui vous avait vu rentrer en Acura, les vitres, parce qu'ils sont pas capables de voir c'est qui, ben on mitraillait. Là, c'était le soir, le jour de le 24 décembre, je me trompe pas, il était 11h15, 11h30 du matin. Fait, ouais, ça va être une grosse journée, ça, cette affaire-là. Fait, je suis rentré dans son petit char. Puis on s'est promené dans la favela. Écoute, il n'y a pas d'électricité. Ils ne ramassent pas les ordures. Il n'y a pas d'eau courante, je crois. Il n'y a plus d'école après l'âge de 14 ans. Fait que les petites filles deviennent prostituées, les petits gars deviennent proxénètes, vendeurs de dope. Puis le Fixer, il y avait un programme pour apprendre aux jeunes à jouer au soccer, puis apprendre les mathématiques, l'anglais. Bon, des trucs gentils, un bon Jack. Puis le gars, il a fait de la prison. Quand je me suis fait tirer ici, puis se baisser les culottes. Le gars, il était charcuté bord en bord. Et tu te promènes dans la favela, il y a des chars brûlés à gauche, à droite, là, dans les fossés. Et il y a des gros poteaux de béton, je te dirais. Il n'y a pas de béton, pardon, de fer forgé, je ne sais pas quoi, comment est-ce qu'on appelle ça, pour empêcher les tanks de Bolsonaro de rentrer. Mais les tanks rentraient pareil, puis ils forçaient les trucs, puis tout était un peu arraché. Puis là, il me disait, regarde, là, tu peux filmer, mais quand je te dis d'arrêter de filmer, t'arrêtes de filmer. Puis moi, je connaissais l'histoire du journaliste, fait que vraiment, j'arrêtais de filmer. Puis on voyait des jeunes de, je sais pas, 18, 20 ans, 22 ans, en dessous d'une planche de plywood avec des AK-47 qui servent de sentinelle dans la favela. Puis on est allé jouer au soccer avec sa gang de jeunes. Il était 5, 6, 7. Et après, à la fin, je fais mon petit topo. Tu sais, j'explique, bon, blablabla. Puis après ça, il dit... Puis là, je suis devant un paquet de cabanes. Okay? Puis j'ai les photos sur mon Facebook, s'il y en a qui veulent aller voir. Là. C'est un bidonville, un vrai. Puis je suis en train de faire mon topo. Puis il dit, OK, c'est assez, on s'en va. Je dis, ce sera pas long, j'ai presque fini. Il dit, non, ils ont des crises, là. Mais je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, regarde, moi, je te fais confiance, là, mais... Ceux qui sont en arrière de toi, je ne sais pas s'ils vont te faire confiance. S'il y en a un qui tire, ben c'est ça qui va arriver. Fait que crée-moi que le topo, c'est fini pas mal là. Puis on est redescendu après, puis les ticus qui avaient, je ne sais pas, 15, 16, 17 ans, on est allé manger, je leur ai payé le lunch, évidemment. Puis là, ils parlaient comme des ticus de 15, 16 ans qui buvaient du Pepsi, puis il y avait du fun. Tu sais, je me disais, l'espérance de vie de ces enfants-là, ça n'existe pas. Et à un moment donné, je te jure, là, ça m'a pogné. J'ai fait, ça commence à être lourd. Puis j'ai dit, je suis retourné au poste de pompier, mon chauffeur est venu me chercher. Puis je suis allé me coucher dans ma chambre, puis je ne suis pas sorti de chez nous du soir de Noël. Je me suis dit, c'est une injustice totale, surtout que le fixeur en question, qui est venu me reconduire au poste, il m'a dit, le gars en question qui s'appelait Flavio, je ne sais pas s'il est encore en vie aujourd'hui, il me dit, c'est tout ce que je veux faire, Fred, dans la vie? Je dis, non, vas-y, je veux devenir un chauffeur d'Uber. Genre, ben, c'est cool. Il dit, ouais, il y a personne, comme tu sais, qui veut venir dans la favela. Fait que moi, en étant Uber, les gens me connaissent ici, je fais partie des gangs, parce que lui, il est encore dans les gangs. Là. Mm-hmm. Hey, tu sais, je vais pouvoir gagner ma vie comme ça. J'ai dit, excellent. Puis il dit, sais-tu pourquoi je veux faire de l'argent en faisant du Uber? Je dis, non. Je dis, c'est parce que j'ai un fils de 19 ans, puis j'aimerais ça l'envoyer à l'université au Canada.
Ça en dit beaucoup. Ça en dit beaucoup sur le bien-être qu'on a, puis des fois, on s'en rend pas toujours compte. OK. Mais encore une fois, dans la favela, tu étais le seul qui n'était pas armé, de ce que je comprends. Fait que tu visites souvent des endroits où tu es le seul qui n'est pas armé. C'est très cool. Là,
écoute, je te dirais que rendu là, même si je suis armé contre la gang de la favela ou de Bolsonaro.
Ouais.
Bof.
Mais tu t'intéresses beaucoup aux droits humains, tu t'intéresses beaucoup à la politique, à la démocratie. Bon, tu travailles actuellement à montrer aux gens qu'est-ce qui se passe aux États-Unis selon ta vision des choses. T'as-tu peur des fois d'être un peu teinté par rapport à ce que tu veux montrer de ce qui se passe aux États-Unis,
exemple? Je suis biaisé? Ah, ben c'est sûr.
Ben, biaisé ou teinté, on l'est tout, en fait. Là, on a tout un billet. Là. Moi, je sais que ça va te surprendre, là, mais moi, je fais partie de la droite toxique économique. Là,
ben, toxique, je ne le savais pas, mais droite économique, je n'étais pas pire au courant.
À partir du moment où je veux que ce soit un gouvernement plus petit, où je veux que l'argent reste dans les poches des contribuables, au Québec, on est considéré comme toxique. Là. Mais oui, j'y crois à ça. Puis les droits humains, bien sûr. Mais pour ce qui est de l'économie, je suis un petit peu plus à droite. Mais pour ce qui est des autres... Je ne suis même pas gauche-droite, je te dirais. Je suis peut-être un peu plus au centre, mais je suis très attentif à des gars comme toi qui s'impliquent à faire connaître un peu là, les droits humains, la politique extérieure. Comment ça se passe ailleurs versus ici? Qu'est-ce qu'on fait au Canada ou encore aux États-Unis qui va à l'encontre de la Constitution? Je trouve ça franchement intéressant ce que tu fais, mais qu'est-ce qui t'a apporté de toi là-dedans?
Mais juste avant, petite parenthèse, tu sais, des gars comme toi, comme Duhaime, c'est drôle. Moi puis Duhaime, on a un chalet un à côté de l'autre au lac Kataoué pendant, je sais pas, 15 ans. C'était le chalet de ses parents. Il a vendu récemment. Moi, je suis encore là. Mais des gars de la droite économique, je suis allé au podcast de Yann et Frank, pis ça, mais j'adore ça, moi. Dans le sens où moi je le suis pas, mais ça fait partie de... Je ne suis pas à droite économiquement parlant, à droite tout court d'ailleurs, mais ça fait partie d'une dialectique importante, ça, Puis tu sais, moi, je suis à gauche, mais c'est pas une raison pour garocher notre argent par les fenêtres. Puis moi, en jasant avec des Yann, des Frank, des Toi, des Duhem, des toute votre gang, mais des fois, j'allume. Ouais, OK, ça, c'est cave. Ouais, cette subvention-là, ouais, ça, c'est innocent. Ouais, on a fait... Puis je suis très, 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 un, conscient de ça. Puis deux, je suis content qu'on puisse avoir ces discussions-là. Moi, je suis content que le Parti conservateur d'Éric existe pour qu'on ait ces discussions-là, parce qu'elles sont... névralgique dans une démocratie. Fait que je ferme la parenthèse. Pour le reste, pour les droits humains, ça, tant qu'à moi, c'est un autre débat, essentiellement. Dans le sens où, tu vois, moi, je m'y intéresse depuis un bout de temps maintenant, mais j'avais écrit mon premier livre, c'était en 2014. Et l'éditrice, on cherchait un titre, on zigonnait, on ne trouvait rien. Puis l'éditrice, Marie-Pierre Baraton, qui est décédée aujourd'hui, je salue sa mémoire, avait dit, je l'ai trouvé, on va appeler ça la fin de l'État de droit. Puis là, j'avais dit, ben là, wow, là, tu charries un peu, là, je vais faire rire de moi. J'ai dit, là, elle dit, ben, c'est ce que t'écris, tu dis que l'État de droit s'en va dans le drain. Puis j'ai dit, oui, mais tu sais, je veux alarmer les gens un peu pour faire de la conscientisation. Fait que c'est trop fort. Bref, on a fait un compromis, on a mis un point d'interrogation.
Ça, c'est en 2014.
Ouais, fait 10 ans. Ça, c'est avant le premier mandat de Trump, qui était assez soft versus le mandat actuel, quand tu regardes ça. Puis, je me suis toujours intéressé à ça. Puis quand je te disais les trucs au Brésil, Chili d'ailleurs, il y a un féminicide, il y avait suspendu les droits civils et tout. C'est dans ce cadre-là que j'étais là. Je me suis toujours intéressé, tout en me disant, on est chanceux au Canada, on est chanceux aux États-Unis. Bon, on ne vit pas aux États-Unis, mais avec l'influence d'eux. Mais j'ai vu des signes inquiétants dans le premier mandat de Trump. Puis je te dirais, quand j'ai vu le projet de 2025... Je me suis dit, ouais, là, ça va vraiment mal finir, cette histoire-là. C'est fini par passer. Puis honnêtement, je pensais, c'était pas mal certain qu'il allait gagner. Je l'avais parié avec plusieurs amis, je l'avais dit en ondes, parce qu'il y a une tendance de fond. Et là, depuis le 20 janvier, ça fait quoi? Ça fait deux mois et quelques. Écoute, c'est le déluge en termes d'État de droit. Puis tu sais, l'État de droit, c'est pas juste des avocasseries, hein? L'État de droit, c'est le pilier de la démocratie. Si t'as pas un État de droit sérieux, t'as pas de démocratie sérieuse. Et c'est dans cette optique-là que moi, que je me suis toujours intéressé à cette affaire-là, surtout sur le volet de droits fondamentaux. Puis ce qui est dommage, souvent, c'est qu'on s'intéresse aux droits fondamentaux quand ça nous touche. Puis ça, c'est le problème, c'est le classique, tu sais, je veux dire, on a tous cette tendance-là quelque part.
Le fameux phénomène du « c'est pas dans ma cour, je m'en occupe pas », mais le jour où ça va être dans ma cour, je veux que tout le monde s'en occupe.
Et voilà, mais ça, c'est le... Bon, puis c'est pour ça que moi, je me suis toujours intéressé aux droits des minorités, tu sais, j'attaque des lois devant les tribunaux parce que c'est ma job comme avocat, même des affaires, tu sais, sur des questions religieuses. Moi, je suis pas religieux depuis deux semaines, ma fille est même pas baptisée, je m'en fous. Mais c'est parce qu'il y a un droit fondamental, on appelle ça fondamental pour une raison, c'est que ça mérite d'être respecté. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être suspendu de temps à autre si ça justifie, parce qu'il faut trouver un équilibre entre les intérêts de la société et les droits individuels, ça, je suis d'accord avec ça. Mais là, on est dans une tendance où c'est rendu trop facile de piétiner les droits fondamentaux, ce qui fait en sorte que ben, les gens finissent par s'en foutre. Et arrive un moment donné, un peu comme tu dis, le pas dans ma cour. Ce que j'ajouterais à ça, c'est que souvent, quand c'est rendu dans ta cour, des fois, il est un peu trop tard. T'en parleras à un paquet de gens aux États-Unis qui ont voté pour Trump pour X, Y raison, puis que là, qui se font déporter. Ça, c'était peut-être un peu moins comique, tu sais.
Oui, effectivement, effectivement. Tu sais, on parlait, puis je ne veux pas parler avec toi de la pandémie, là. C'est pas le sujet de ce soir, mais tu sais, on parlait des droits fondamentaux, mais moi, je pensais pas qu'un jour, un gouvernement pouvait m'en cabaner. Tu sais, je me dire à partir
ça, ça a été... ça a été un gros traumatisme, ouais, au Québec.
Je ne pensais pas ça. Si on m'avait dit que ça s'était passé des années 1700, 1800, j'y aurais cru, mais là, j'étais en train de le vivre. Puis heureusement que je faisais le métier que je fais là, parce que je pouvais me permettre de travailler plus tard le soir, ouais, puis d'avoir un semblant de vie au boulot, parce que sinon, j'aurais été encabané chez nous, j'aurais halluciné, Fred.
Ben moi, je vais même te faire un aveu, là. Pendant la pandémie, tu sais, j'étais à TVA chez Denis Lévesque et tout au métro. Puis je réalise que j'ai été tough, trop tough sur les questions de comment est-ce qu'on appelle ça, de couvre-feu. Puis j'étais vraiment à la ligne dure, là. Honnêtement, bah oui, couvre-feu, ça va. Puis je réalise aujourd'hui que je l'ai échappé moi-même. Je continue de penser que c'était la bonne posture, c'était la vaccination et tout ça. Ça, je ne change pas d'idée là-dessus. Mais on s'est tellement laissé embarquer dans l'espèce de buzz de « faut faire ci, faut faire ça, faut tout ». Et là, je réalise que je suis allé trop raide, honnêtement, notamment sur ceux qui étaient, disons, plus récalcitrants ou dissidents. Ça ne veut pas dire que j'approuve tout ce qui s'est dit en dissidence, on s'entend bien. Mais tu sais, si c'était à refaire aujourd'hui, là, je serais critique, je serais plus critique des décisions gouvernementales musclées, notamment sur la question du couvre-feu, notamment sur la question du confinement à 100% après, je ne me souviens plus quelle heure, 8 heures ou peu importe et tout.
Ah, c'était hallucinant ce qu'on vivait. Puis tu sais, il n'y a personne de parfait. Il y a eu du débordement partout. T'sais, j'entendais Mario Dumont, il y a de ça quelques années, pendant la COVID, dire « si votre beau-frère ou votre mère ou votre père se fait pas vacciner, bannissez-les ses réseaux sociaux, ne leur parlez plus, tout ça. » Ah, ben ouais, ouais. OK, ça va c'est vraiment cool, loin. Ouais. Mais c'est ça. Il y en a qui l'ont eu dur pendant la pandémie. Puis j'espère juste qu'on a appris nos erreurs. Puis j'ai Mark Hamilton, que tu dois connaître, qui a fait beaucoup de télé pendant le temps de la pandémie. Ouais. C'est un microbiologiste. Puis ouais. Je l'invitais régulièrement à mes émissions ouais. le soir pendant la pandémie. Puis il m'avait dit une phrase qui va rester à jamais marquée en ma mémoire. C'est « Yannick, on est en train de lutter contre une bête qu'on ne connaît pas. C'est l'équivalent d'essayer de bâtir un avion en vol. On va faire ouais. des bons coups, puis on va faire de très ouais. mauvais coups. » Et encore à ce jour, il m'avait dit ça pendant la pandémie, et on est quelques années plus tard, puis il avait raison.
Oui.
On a fait de bonnes affaires comme on a fait des mauvaises.
Mais tu vois, moi, dans ce cadre-là, c'était un peu ça. Moi, j'étais « all in ». Garde, prenons toutes les mesures nécessaires, puis arrêtez de brailler, puis c'est pas grave. Je réalise aujourd'hui, je me répète, je fais mon mea culpa par rapport à ça, que je suis allé un peu raide, là, honnêtement. Là. Tu sais, j'aurais pu garder un esprit critique un peu plus affiné, disons. Je l'avais sur certaines affaires, mais là-dessus, la méthode ultra militaire, là, franchement, je réalise ça aujourd'hui, juin, là, c'est un peu sauté, là, cette ouais. histoire.
Mais c'est humain de se tromper. Là, tu sais, je lisais tes affaires tantôt, ta biographie, je me suis dit, ce gars-là, c'est Superman, mais je m'aperçois que t'es humain, fait que c'est pas grave. Tu deviens de plus en plus humain à mes yeux.
Madame mes chums, tu vas voir.
Hey, j'ai trouvé un article super intéressant sur toi qui est paru dans les journaux. On est quoi? C'était hier. C'est Pascal Lévesque qui a écrit cet article-là sur toi. On parlait que tu étais millionnaire. Ben pas millionnaire pour de vrai, mais millionnaire de visionnement. Les capsules Make Fascism Great Again de Frédéric Bérand ont franchi le cap du million. Comment tu as eu l'idée de partir ces petites capsules-là? Puis moi, ce que j'aime, c'est que, tu sais, moi, j'ai de la difficulté des fois à être concentré pendant 2 heures pour écouter un ouais. documentaire. Tes ouais. petites capsules sont pas longues, puis ça reste dans la tête, puis c'est facile à comprendre. Je pense que t'as eu un bon filon, là.
Ben, l'affaire, c'est, écoute, t'es pas obligé de me croire, mais je faisais pas ça pour personne d'autre que pour moi-même, je te le jure. Parce que, tu sais, je le voyais, là, les attaques à l'État de droit puis à la démocratie, à la vitesse que c'est. Puis c'est d'ailleurs le plan de Trump. Hein, on mitraille, on en fait le plus possible. Les journalistes ne sont pas capables de suivre le beat. Tu sais, je te parle de l'affaire du Golfe du Mexique, là, qui est devenu le Golfe des Amériques. On dirait que ça fait 1000 ans de ça. Si, ça fait 2 semaines, là, tu comprends? Et là, je me suis dit, il faut que j'écrive là-dessus éventuellement. Mais là, il faut que je tienne ça à jour parce que là, ça n'a pas de maudit bon sens. Là. Je ne serais pas capable de me rappeler du corps de ce qui est en train de se produire. Fait que je vais mettre ça sur vidéo. Puis éventuellement, je demanderai à un recherchiste de ramasser tous les thèmes. Puis on fignolera la recherche. Puis j'aurai mon stock pour écrire mon livre. Puis là, je me suis dit, en même temps, je peux peut-être les mettre en ligne. Peut-être que ça peut intéresser quelques personnes, expliquer quelques affaires. Puis ça. Puis là, je me trouvais drôle. Make fascism great again. Tu es rendu là, pourquoi pas. Puis. Si ça a décollé tranquillement, pas vite, là, pas fait de promo, rien, là, j'ai mis ça sur mon Facebook tranquille, ça s'est mis à se partager, puis je pense que c'est, là, la semaine passée, j'en avais fait une quarantaine, pas loin d'une cinquantaine, puis je me suis dit, écoute, donc, combien j'ai eu de vues là-dedans pour le fun, fait que là, je me suis mis à compter les... Bon, on est rendu à 1 million, là, aujourd'hui, ça doit être, je sais plus, 1,4 million, 1,5 million, quelque chose comme ça. Là, je calcule ça. Fait, c'est du monde à la messe, ça. Ah oui. Dit, 1 million. J'ai dit, ouais. Mais je l'avais pas vu aller. Puis c'est pas juste sur mon Facebook. Là, j'en ai sur Instagram. Puis une partie, un toc-toc, machin. Là, c'est pas moi qui s'occupe de ça. Là,
un TikTok, Fred. Un
toc-toc. Les vieux ont dit toc-toc.
Sonne comme un vieux monsieur. Là.
Puis d'ailleurs, toc-toc, il commence à. Imagine-toi, il retire des vidéos pour propos haineux. Ça n'a pas compris ce que j'essaye de faire, là. C'est parce que c'est pas moi qui a les propos haineux, là. T'sais, si je dénonce le racisme, c'est pas moi le raciste. Hello! En tout cas, ouais, ça, je pense que Toc-Toc, c'est trop jeune pour moi, il n'y a rien à faire, on va laisser tomber ça. Mais ça pour dire que, écoute, je suis content de la réception, pas à titre personnel, parce que ça, on s'en fout, ça ne paye pas et ça ne donne rien, mais je me dis, il y a une résonance, à quelque part, qu'il n'y avait pas avant, tu sais, quand j'ai écrit ce livre-là, dont je te parlais, il y a 10 ans. Tu sais, il y avait une réception correcte dans les médias traditionnels, puis du grand public, ça s'était vendu un peu pour la... C'était un livre, c'était bien vendu, en fait, curieusement, pour ce genre de thème-là, mais c'était pas le feu non plus. Mais là, je pense que les gens ont peur parce qu'ils voient ce qui se passe. Ils réalisent que, hop là, la démocratie, c'est peut-être plus fragile qu'on pensait. Les droits fondamentaux aussi. Si ça se passe aux États-Unis, est-ce que ça peut se passer ici? Peut-être que oui. J'ai l'impression que c'est tout ça mis ensemble qui fait en sorte qu'il y a un intérêt. Puis je te dirais que, t'es pas obligé de me croire, mais je suis bien plus confiant au moment où je te parle là, en avril 2025, que je l'étais en novembre et décembre 2024. Juste avoir la réception québécoise de ce type de discussion-là. Ouais.
Mais Frédéric Bérard, c'est parce que là, ça nous saute d'en face. T'sais, oui. Quand on jasait avec des gens comme toi, des observateurs des États-Unis, je pense à Valérie Beaudoin, avec qui j'aime beaucoup jaser. On parlait de démocratie. Des fois, il y a des choses qui sont mises en place qui vont à l'encontre de la démocratie. C'est loin, les États-Unis. Bon, moi, je suis en Beauce, fait que tu comprends que la ligne est assez proche de moi. Mais quand on parle de Washington, on a l'impression que c'est à l'autre bout du monde, alors que c'est à côté de chez nous. Mais là, ça nous saute d'en face, ça nous touche. Finalement, ça arrive dans notre cour, puis là, on assiste à cette démocratie-là qui est mâchouillée un peu, puis on n'arrive pas encore à y croire. Mais la bonne nouvelle, comme tu dis, c'est la réceptivité des gens par rapport à ce qu'on mentionne présentement qui arrive. Là, tout le monde embarque. Puis tu sais, la Coupe des Quatre Nations a fait en sorte que ça a été le meilleur hockey que j'ai jamais vu de ma vie dans un bar. Mais ça a pris ça pour intéresser ma blonde au hockey.
Ah oui?
Ça a pris Donald Trump.
Le volet politique.
Oui, c'est ça. Mais on l'a d'en face actuellement. Puis tu disais dans l'article que j'ai lu, je ne sais pas si je vais être capable de le retrouver, mais tu disais, tu sais, c'est un peu comme quand on parle des réchauffement climatique. Tant aussi longtemps que dans ta maison, tu n'as pas les deux pieds dans l'eau. Les réchauffements climatiques, c'est encore très loin, alors qu'on le vit, on le vit aujourd'hui. Puis il y a toujours des gens... Puis là, tu parlais de ma secte tantôt, là, la secte de toxicité. Il y a toujours des gens qui vont dire...
préciser que le terme toxique, je ne l'ai pas employé.
Toujours des gens qui vont dire « Hey, les réchauffements climatiques, il y en a toujours eu. » Puis c'est vrai, il y a toujours eu des réchauffements comme des refroidissements climatiques. Le problème, c'est que dans les 100 dernières années, ça s'est accéléré. Puis il faut faire des choses concrètes qui vont faire en sorte que ça va cesser d'augmenter parce qu'on va se ramasser dans le trouble. Mais tu avais raison sur cette phrase-là. Je sais pas si c'est de toi ou d'un grand moine bouddhiste, là, mais tant aussi longtemps que tu n'as pas les deux pieds dans la flotte, tu te rends pas compte de ce qui se passe.
Non, bien, en fait, moi, ça fait un petit bout de temps. Tu vois, j'avais écrit un livre en 2019, ça s'appelait « La Terre est une poubelle en feu ». Puis ça, là, je pense que ma mère l'a acheté, puis c'est à peu près tout. Là, ça s'est pas vendu, mais que dalle. Puis là, j'ai arrêté de parler de ça, puis je me suis dit, à part taper ses nerfs au monde, il se passe rien, puis tant pis. Mais oui, moi, je suis assez d'accord. Puis tu sais, la question du réchauffement-refroidissement, tu as raison, la grosse différence, c'est que l'activité humaine avec l'ère post-industrielle n'a jamais provoqué autant les réchauffements. C'est ça qui change la dynamique comme telle. Mais sais-tu... Albert Camus disait il y a plus à aimer chez l'homme que l'inverse. Puis franchement, là, ce que je vois, là, ça me réconforte, bien franchement. Parce que je me dis, même ceux qui étaient très pro-Trump pendant le premier mandat, là, ils sont pas mal plus tièdes pour la plupart. Il y en a qui sont encore, là, bon, tant qu'à moi, il n'y a rien à faire, mais pour les autres, tu dis, OK, là, c'est parce qu'il y a des lumières qui allument tranquillement, pas vite, un peu partout. Puis je le dis sans zéro condescendance. Là, c'est juste de... Tu sais, les États-Unis sont en train de sombrer vers le fascisme, là, essentiellement. C'est ça, la vraie histoire, pour pas avoir peur des mots. Là, rendu là, si toi-même, tu souhaites un État fasciste, là, c'est un autre débat. Évidemment que je serai en désaccord là-dessus. Mais de réaliser qu'un État de droit, c'est fragile, qu'une démocratie, c'est fragile, bien, quand tu vois que les gens voient ça puis réagissent, tu sais, je veux dire, c'est une bonne nouvelle en soi, là. Et l'apathie me ferait bien plus peur que n'importe quoi d'autre.
Frédéric Bérard, ta mère sur la 2, elle me dit que même elle n'a pas acheté le livre La Terre est okay. une poubelle en feu.
Ça semblait, OK, ça doit être mon éditeur pour m'encourager.
Fred, on va faire une courte pause. Je vous rappelle que je suis avec Maître Frédéric Bérard ce soir. Il a plusieurs cordes à son arc. Là. C'est un grand voyageur. Il va faire un tour dans des favelas. Il risque sa vie. Il a infiltré Guantanamo. Il a fait fi de la CIA et des enquêtes qu'il y a eu sur lui pour faire des livres incroyable. C'est très cool de te parler. C'est très cool. J'en parlais avec Pascal, ma collègue, ce matin, puis elle disait « J'ai hâte d'entendre ce que vous allez vous dire. Allez-vous vous ostiner? » Finalement, on se rend compte qu'on a peut-être, plus de choses en commun qu'on le pensait. OK, donc on fait une courte pause. Pour les gens qui veulent avoir accès à tout ce que Frédéric Bérard fait, je vous invite à aller faire un tour sur son site web, frédéricbérard.com, frédéricbérard.com, ou encore, si vous voulez avoir accès aux capsules qu'on parlait tout à l'heure de Fred, ben c'est pas sur TikTok, contrairement à ce qu'il dit. Là, c'est TikTok, Instagram et Facebook. Vous allez avoir ces capsules-là. On fait une courte pause et on vient.
Marceau, le soir. Le Rock and Chill avec Audrey Pinchot. C'est le même feeling que d'assister au MTV Unplugged de ton band préféré, mais dans ton salon ou ton lit ou à pratique de tes kids. À vous joue des covers, des versions acoustiques. Un paquet d'affaires qui s'écoutent bien tranquille les matins de fin de semaine. Le Rock and Chill, samedi et dimanche, 7h.
Une présentation du show Rock and Chill ultime pour les fans des années 90. Big Muff Génération Unplugged vous attend le samedi 6 septembre à l'Anglican de Lévis avec ses 7 musiciens en formation acoustique au son de Nirvana, Smashing Pumpkins, Green Day et plus. Billets en vente sur espacedsl.ca.
Toi, Pascal, tu connais ça, le dodgeball, hein?
Hey, mais hein, pour vrai, ça a changé ma vie, tu sais pas à quel point. Je flush mes chums de filles pour aller jouer. J'ai vraiment du fun à chaque fois. C'est collaboratif, participatif, pis ça brûle du jus, t'as pas idée.
C'est des ligues mixtes en plus, donc n'importe quel gars pourrait aller jouer contre toi pis essayer de te clencher.
Ben, okay. Les inscriptions sont justement en cours. Boulevard t'invite à découvrir un sport trippant pour tous les âges et tous les niveaux. dodgeballquebec.org.
Chez Piscine Beauport, adoptez la détente et le confort grâce à nos spas haut de gamme en inventaire avec un rabais exclusif allant jusqu'à 2000 $. PiscineBeauport.com.
Vous voulez vendre une maison, un immeuble ou un terrain? Les immeubles urbains font des offres d'achat rapides, sans conditions et ce, peu importe l'état de votre propriété. Service simple et efficace. Vendez facilement grâce aux immeubles urbains. Pour plus de détails, visitez immeubleurbain.ca.
C'est la vente du dollar chez Maxi. Profitez de milliers de baisses de prix dont le jambonneau Cook's ou les pilons de poulet à 2 $ la livre, les pommes de terre Russet, délices du marché du Canada à 2 $ les 10 livres et la sauce pour pâtes Catelli ou les pâtes Primo à 1,33 $. Plus de rabais en circulaire et chez Maxi.
Mardi.
Je ne suis pas juge, juste avocat.
Plongé dans une comédie policière unique. Ne manquez pas la nouvelle série Événements Carpe Diem, les mardis 20h, en exclusivité sur Max. Abonnez-vous dès maintenant.
Hey, salut, c'est Audrey. Le podcast Reg La Planche Backstage en est à son dernier épisode cette semaine. Les 5 épisodes de son podcast sont disponibles partout sur nos plateformes. Et le lundi 7 avril, ben, c'est la deuxième saison de Sex Tape qui commence. Donc, pour le premier épisode, j'ai jasé avec ma co-animatrice, Mademoiselle V, qui nous confie son passé d'escorte et d'auxiliaire sexuelle, qui est un métier très peu connu au Québec. Rendez-vous lundi, 19h.
Une présentation des boutiques érotiques au 7e ciel. Promo d'avril, cadeau gratuit à l'achat de 10, 25 ou 50 $. Deux adresses, 911 Charest-Ouest, marché Jean Talon et au 7e ciel.com.
Vous avez trouvé tout ce que vous cherchiez?
Oui. Wow!
Ah, ça, c'est les points Inspire de votre offre extra. Juste pour vous.
Il y en a beaucoup. Et avec cette bouteille-là, ça en donne combien?
On va voir.
Oh, wow!
Les points tombent bien à la SAQ pendant l'offre extra. Découvrez votre offre exclusive sur l'appli ou en succursale avec votre conseiller ou conseillère. SAQ, le goût de partager. 18 ans et plus. Détails sur SAQ.com.
C'est pas pour rien qu'ABBA, c'est le choix du consommateur depuis plusieurs années. Nos estimations sont gratuites, nos interventions sont rapides. Chez ABBA, on vend du résultat. Il y a plus de 1000 avis en ligne qui prouvent que notre solution, ben, elle fonctionne. ABBAExtermination.ca ou appelez-nous maintenant au 666-6667. ABBA. ABBA, une solution définitive.
Besoin de faire installer une fosse septique? Faites affaire avec de vrais pros. Chez Dexco Excavation, on en maîtrise l'installation sur le bout des doigts. Résidentiel, commercial, raccordement aux services municipaux, on s'adapte à votre situation pour des travaux durables et conformes aux normes. Accrédité pour tous les systèmes du marché et pour les subventions de la Ville de Québec, nous livrons qualité et expertise à prix compétitif. Dexco Excavation, plus de 20 ans d'expérience. Dexcoexcavation.com.
Les rabais de la circulaire d'avril sont arrivés chez Mondou. Épargnez jusqu'à 12 $ sur la nourriture sèche hypoallergène de marque First Choice pour chats ou chiens. D'ici le 16 avril, découvrez toutes les offres sur nos produits fabriqués et conçus au Québec, en magasin ou au mondou.com.
102, la radio rock de la vieille capitale. Ça, c'est BLVD.
Boulevard. 102-1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
Maître Frédéric Bérard est avec moi. Il est chroniqueur, auteur, il est professeur. C'est un homme aux multiples talents. Fred, il reste à peu près 3-4 minutes à jaser pour ce soir. Reste-tu encore des choses à accomplir? Alors, t'es pas en fin de vie, là, mais il te reste-tu des... Il te reste-tu des rêves à accomplir, des choses à faire?
Tu sais, un peu comme je te disais d'entrée de jeu, la vie, c'est vraiment précieux pour moi, puis ben, comme pour pas bien du monde, là, c'est pas original ce que je te dis là, mais l'important, c'est d'avoir du fun à chaque jour. Puis j'ai perdu un de mes amis très, très proche. Il venait d'avoir 40 ans. Je l'ai perdu il y a 7-8 ans. Puis, il a 3 enfants en bas âge. Écoute, je l'ai veillé sur son lit de mort. Là. C'est ça, là, mon vieux, là, ça m'a fessé là, comme rien m'a fessé dans la vie, bien franchement. Puis, je me suis juré de continuer à faire ce qui me tentait dans le tapis jusqu'à la fin. Puis, quand je serai sur mon lit de mort à mon tour, je dirais, ben that was a fucking ride. That was fun. T'sais, ça va être ça, mon trip. Fait que, au moment où je te parle, il n'y a rien. Je n'ai pas de plan, comme je te dis encore. Il va y avoir un... Je peux te le dire, par exemple, ça, c'était peut-être une petite... Bon, c'est pas un scoop, là, on s'en fout, mais il va y avoir un film sur l'affaire Kader, sur le livre que j'ai fait. On est en train de travailler là-dessus.
Ça va être un film ou un documentaire?
Ça va être un genre de film docu un peu entre les deux. J'étais avec les Item 7 Productions là-dessus, là, qui a fait Crazy, puis tout ça. Fait qu'on est en train de travailler là-dessus, puis ça, c'est le fun, parce que c'est un nouveau milieu pour moi. Je connais pas du tout le cinéma. C'était avec Anaïs Barbeau-Lavalette, qui est réalisatrice, Catherine Léger, qui scénarise. Moi, je donne un petit coup de main juste pour faire un peu ce que j'ai à faire côté contenu. Mais ça, tu vois, ça me fait plaisir. Ça, je trouve ça très, très cool d'aller jouer là-dedans.
Ça va faire chier la CIA aussi, hein?
Sûrement, ça c'est parfait. C'est parfait comme ça. Mais
mes sources m'indiquent que quand il y a des parties de Noël à la CIA, là, sur le jeu de dors, il y a ta face.
Hey, je vais te raconter une dernière si tu veux. Tu sais, pour prendre l'avion à partir de Saint-Andrew,
ouais.
Jasving m'avait dit là, amène-toi 800$ cash.
Ouais, ça, t'étais à Guantanamo à ce moment-là. Là.
Ouais, non, à Saint-Andrew pour partir vers Guantanamo.
OK, 800
j'ai 800 cash, puis moi, le tata, j'étais allé au Camden Yard à Baltimore la veille pour voir les Orioles. J'ai toujours trippé sur le Camden Yard. Puis je me sors, ça m'a pris, je m'en 6-7 retraits pour avoir mon 800$ US. Je mets ça dans ma poche. Puis j'ai appris après, tu sais, Baltimore, je savais que c'était un peu dangereux, mais je passais pas autour du stade. Il y a un taxi qui est venu me ramasser, il passait ses lumières rouges parce qu'il dit, il y a plein de gangs de rue qui débarquent, puis qui demandent des cigarettes, puis qui poignardent, en tout cas, bref, tu vois, genre un peu. Fait que ça pour dire, j'ai mon 800$, la grosse palette là, de faiseux, puis je ne prenais pas les cartes. Puis j'arrive là-bas, je dis, on paye de sa gare, ils ont payera plus tard, là, il faut voir avec tel Joe Blow, je ne sais pas quoi, tout cas, peu importe. Ça pour dire que je ne les ai jamais payés. Quand je retourne aux États-Unis, là, j'irai pas pendant un petit bout, mais je suis avec mon chum Max qui, lui, est vraiment stressé avec ces affaires-là. Si je dis ça avant de passer les douanes, il va s'évanouir, tu sais. Mais quand j'ai passé mon passeport la première fois, je m'attendais à ce qu'il y ait une lumière qui allume. Est-ce que tu dois quelque chose à l'armée américaine? Finalement, ça a passé comme une lettre à la poste. Fait que, tiens, merci les gars pour le 800$. C'était bien agréable. Puis c'était un bon vol, très confort comme avion, comme j'en ai rarement eu.
Ben oui, c'est ça. Est-ce que quand tu passes aux États-Unis, est-ce qu'ils se souviennent de toi, que tu avais été à Guantanamo, tout ça? C'est-tu répertorié, ça, quand le douanier oui. est frontalier? Ouais.
Oui, parce qu'il y a des. Oui, ça, ils niaisent pas, là. Tu sais, ces passeports, là. Écoute, t'es scanné, là. Aller-retour, là, tu sais, bien franchement. Puis il y a eu des articles de presse, c'est pas mal, là-dessus, là, ce voyage, le livre, le ci, le ça.
Mais t'as pas été bloqué, là, t'as pas été bloqué
en tout,
pour l'accès.
Oh. En tout, mais le Flesving en question s'est mis à me suivre sur Facebook, le Andrew, j'oublie son... Andrew Cold, c'est où elle, là, sur autre, mais tu sais, c'est quoi, là... Tu sais, je me dis, ils m'ont laissé rentrer...